France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Pour la première fois, jeudi dernier, la droite et l'extrême droite se sont alliés au Parlement européen afin de voter la directive Omnibus visant à amoindrir les mesures du pacte vert européen. Cet exemple d'union des forces fait miroiter en France les velléités d'alliance qui agitent la droite et l'extrême droite à quelques mois des élections municipales. Alors que le rapport de force électoral s'est inversé au fil des années entre le RN et les Républicains, un rapprochement entre les deux forces politiques peut-il devenir un horizon souhaitable, désirable pour celles-ci et pour leurs électeurs? Comment la droite s'est-elle recomposée idéologiquement? Et quelle stratégie préside aux accointances revendiquées par Laurent Wauquiez avec Renaissance ou par Éric Ciotti avec le Rassemblement National? Deux invités pour en discuter ce soir. Aurore Malval, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et grand reporter au service politique de Marianne. Face à vous, Arnaud Tessier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien spécialiste de la Ve République et du gaullisme, auteur de cet ouvrage intitulé « Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur », c'est aux éditions Perrin. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Ce pourquoi moi je plaide, si c'est précisément pas pour se diluer dans la Macronie, c'est pour avoir un candidat de droite. Ma conviction, c'est que ça passe par le fait de rassembler les électeurs. Par exemple, j'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un comme Sarah Knafo. C'est mon objectif, est de pouvoir faire revenir des gens qui sont partis à Reconquête.
Donc je vais répéter pour la énième fois, je ne suis pas pour l'union des droites, je ne suis pas pour sauver la droite. Moi, je suis là pour sauver la France. Donc je suis pour l'union de tous les patriotes. Et je suis bien placé pour savoir que des patriotes, il y en a à droite et il y en a à gauche.
J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays. Et bien dans ce cadre, pour éviter les menaces qui pèsent sur notre pays, il fallait construire des alliances qui reposent pour moi sur des valeurs de droite.
Ce que je propose, c'est une grande primaire ouverte à tout cela et une grande entente autour de quelques principes simples et ensuite de créer une vraie force pour récupérer ce que j'appelle les orphelins de la droite, et c'est ce que je vais proposer.
Les quatre voix successives de Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Éric Ciotti, David Lisnard. Commençons par le début, Aurore Malval. C'est quoi, au fond, l'union des droites? Où en pose-t-on les bornes et où les quatre personnalités politiques que l'on vient d'entendre en posent les limites?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que aucune n'a tout à fait la même vision. Alors, j'en mettrai une de côté, c'est Marine Le Pen. Mmh. Mais disons que pour les trois autres, on a commencé par entendre Laurent Wauquiez qui parle d'une sorte d'union des droites, mais qui est quand même largement, je dirais, politicienne. C'est aussi une tactique pour Laurent Wauquiez, qui veut un petit peu mettre des bâtons dans les roues de Bruno Retailleau. Donc, il y a quand même...
En faisant des appels du pied à Reconquête.
En faisant des appels du pied à Reconquête, en allant d'ailleurs un petit peu... Alors, c'est moins polémique, mais en allant élargir de l'autre côté jusqu'à Gérald Darmanin. C'est vrai qu'il y a cette idée, en tout cas... Quand des gens de droite, comme Laurent Wauquiez, parlent de l'union de droite, c'est de dire, finalement, nous sommes d'accord sur un certain nombre de principes, notamment régaliens, c'est surtout là-dessus que va porter l'entente, ou ce mariage un petit peu de raison, et de dire, voilà, puisqu'on est d'accord sur un certain nombre de grands principes, eh bien, construisons une primaire ensemble, puisqu'il faut absolument pouvoir se qualifier au second tour. Je dirais que ça, c'est un petit peu, en tout cas, le pragmatisme duquel se revendique Laurent Wauquiez, ça n'empêche pas que c'est quand même une tactique politique. David Lisnard, c'est un petit peu la même chose, avec, je dirais, un accent qui est mis plus sur le côté libéral. Si Laurent Wauquiez va être un peu plus sur le volet identitaire, David Lisnard, lui, est très attaché justement au libéralisme. Il en a fait un petit peu son cheval de bataille. Lui, ça le conduit à envisager un petit peu le même espace politique. Hein. Lui aussi parle de Sarah Knafo et élargit jusqu'à, on ne sait pas trop, Édouard Philippe, voilà, dans le centre droit. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir pour Marine Le Pen, elle dit, je ne suis pas pour l'Union des droites. D'ailleurs, elle le dit pas vraiment dans cet extrait, mais elle aurait pu ajouter, je ne suis pas de droite. C'est souvent ce que dit Marine Le Pen. Le Rassemblement National se construit, enfin en tout cas se conçoit pour Marine Le Pen comme un parti qui est ni de droite ni de gauche. On a entendu Marine Le Pen il y a quelques mois, je me souviens, chez notre confrère Darius Rochebain, qui disait mais moi je ne suis pas du tout pour le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, ça c'est une lubie de la droite. Donc clairement, il y a un positionnement chez Marine Le Pen qui est ni de gauche ni de droite. C'est pas le cas de tout le monde au Rassemblement National, c'est beaucoup moins le cas pour Jordan Bardella.
Pour ajouter à la complexité, Arnaud Tessier, lorsqu'on parle d'union des droites, droite aujourd'hui, on parle d'une alliance possible entre les Républicains et peut-être le Rassemblement National, Reconquête également. Or, ce que démontre la pratique du pouvoir, depuis 2017 notamment, c'est que l'union des droites peut s'ouvrir vers la gauche, et ceci notamment entre LR et Renaissance, Horizon, des partis qui ont exercé le pouvoir depuis 2017.
Oui, mais alors là, la confusion devient totale, parce qu'on ne sait plus qui est de droite, qui est de gauche, qui est du centre. Ça, c'est une sorte de grand brouillage qui est lié à l'aventure macronienne, qui a prétendu ouvrir une sorte de champ au centre, ou en tout cas ailleurs dans la vie politique, et qui permettrait de dépasser les notions de droite et de gauche. Moi, je crois que, par contre, elles sont immuables. Et ce qui est en train de se passer, qui, à mon avis, rend un peu caduque le débat sur l'union des droites, c'est qu'en réalité, le Rassemblement National, depuis 30 ans, progressivement, est en train d'occuper presque totalement l'espace qui était occupé par la droite traditionnelle. Les Républicains n'ont cessé de décliner. Et j'étais très frappé parce que vous disiez sur Marine Le Pen. En réalité, le discours de Marine Le Pen, elle ne l'affiche pas ouvertement. Mais c'est là qu'elle est habile. Son discours, c'est un discours gaulliste. Elle dit « je suis là pour rassembler ». Et on a laissé la droite...
C'est un discours gaulliste.
De Gaulle et les gaullistes ont toujours dit qu'ils ne se situaient pas à droite, que le propre du gaullisme, c'était de dépasser ses clivages. Et c'est pourquoi, effectivement, la tradition gaulliste est une tradition qui attache beaucoup d'importance à l'État, qui ne passe pas son temps à dire qu'il y a trop de fonctionnaires, et qui attache beaucoup d'importance au social. Et la droite française, qui était de tradition gaulliste, a complètement laissé tomber ça. Et on voit bien qu'au Rassemblement National, Marine Le Pen, plus ou moins, avec plus ou moins d'agilité, essaie de récupérer ça sans le dire ouvertement. Et à mon avis, c'est très habile et très dangereux pour la droite. Mais apparemment, tout le monde au RN, où règne une certaine confusion idéologique, n'est pas du même avis. On voit très bien que du côté Bardella, on fait des clins d'œil au MEDEF, etc. etc. Donc, le paysage est très mouvant, mais surtout, on arrive à une situation où les possibilités pour la droite républicaine, la droite classique, sont très réduites, parce que le rapport de force est totalement inversé.
Alors, je voudrais qu'on prenne un peu de recul sur ce concept, celui d'union des droites, grâce à une archive qui date du 12 septembre 1983, lors des élections municipales de Dreux. Le journaliste qui s'exprime s'appelle Philippe Chaffanjon.
24 heures après le scrutin de l'élection partielle de Dreux, les états-majors politiques digèrent, tant bien que mal, la victoire de l'opposition. Nette victoire, puisque la liste regroupant le RPR, l'UDF et le Front National a obtenu 55,33% des voix contre 44,67% à la gauche. Non seulement la gauche a perdu la ville de Dreux, mais l'extrême droite a fait son entrée à la mairie de cette petite ville de la grande banlieue parisienne. 4 membres du Front National siégeront désormais au conseil municipal de Dreux et c'est précisément ce qui inquiète la majorité. Devant les caméras de TF1 à 13h, le Premier ministre Pierre Mauroy n'a pas voulu dramatiser les choses, mais tout de même, il a accusé l'opposition de jouer aux apprentis sorciers.
Je crois que c'est un test politique sur l'attitude de la droite. D'abord, une poussée de ceux que je vais appeler les marginaux de la République, c'est-à-dire l'extrême droite. L'alliance délibérée, on vient encore de le souligner, entre la droite classique, que n'est pas besoin de cette alliance, et ces marginaux de la République.
Alors, qu'est-ce que l'on vient d'entendre, Aurore Malval ? Vous nous parliez avant l'émission de coup de tonnerre de Dreux. De quoi s'agit-il ?
C'était comme ça que ça avait été effectivement appelé à l'époque. C'était cette alliance entre la droite, à l'époque d'ailleurs le RPR, non, c'était avant le RPR peut-être
c'est
même,
RPR,
UDF, voilà, et donc le Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc d'ailleurs, c'est très intéressant sur ces municipales partielles. Cette même année, je crois que le Front National avait aussi fait une percée dans le 20e arrondissement où Jean-Marie Le Pen avait été lui-même candidat. Et Dreux, ça a été le symbole pendant très longtemps de cette alliance. Et d'ailleurs, on a surtout retenu, enfin dans un peu l'imaginaire populaire qui a suivi, que le Front National avait gagné les élections municipales à Dreux. Ça a été un petit peu ça. Et d'ailleurs, après, c'est construit une mythologie un petit peu autour de cette ville de Dreux, où d'ailleurs le Front National n'a plus gagné d'élections par la suite. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'absolument inédit, cette campagne. La campagne a été assez courte et a été très violente. Quand on se plonge dans les archives de l'époque, on voit que c'était vraiment une campagne qui avait été faite contre l'immigration, contre les immigrés algériens de la ville qui avaient été nommément pointés du doigt. Ça s'inscrivait bien sûr sur fond de la désindustrialisations et de la faillite des entreprises locales. Mais ça avait été vraiment un bouleversement et un premier séisme. Ça n'a pas été le seul ensuite. Hein. On a eu notamment au Conseil régional de Bourgogne, Jean-Pierre Soisson, qui a été réélu avec les voix du FN. Donc il y a eu, de façon sporadique dans l'histoire politique française, cette union des droites avant l'heure.
On sait bien, Arnaud Tessier, que la droite française n'a jamais été un bloc homogène, qu'elle a toujours au moins été divisée en trois. Alors certains, notamment René Raymond, parlaient de la droite légitimiste, orléaniste, bonapartiste. Le logiciel a été remis à jour depuis, on parle des conservateurs, des libéraux, des autoritaires, bref. Peu importe, j'allais dire, le prisme pour comprendre cette tripartition, au fond, est-ce que le fantasme d'une droite unie a toujours existé ?
Oui, et malheureusement, il s'est réalisé. C'était ce que avait prédit Philippe Séguin. Il avait cherché à lutter contre ça. Il y avait deux grandes familles politiques à droite dans les années 80. Il y avait le RPR, qui était de tradition un peu eurocritique, qui insistait beaucoup sur la nation et qui n'avait pas abandonné toute problématique sociale. Et puis, il y avait des gens qui étaient plutôt centraux, libéraux, libéralo-européens, qui étaient l'UDF. Et il y a eu une obsession à un moment donné, on a changé de cap, notamment après le débat sur Maastricht. C'est Jacques Chirac qui a voulu faire une sorte de formation unique pour en faire une machine de combat pour l'élection présidentielle. Et Philippe Séguin avait dit, ce sera une catastrophe, parce que les thématiques qui sont propres à la tradition gaullienne, qui sont un état fort, une attitude prudente et critique vis-à-vis de la construction européenne et une vraie politique sociale, l'extrême droite s'en emparera et littéralement pompera toute la force et toute l'énergie. Il le dit en 91. Il dit, le Front républicain mettra Le Pen, il parlait du vieux Le Pen, à 40%. Il dit ça en 91. On y est. Donc, c'est incroyable de voir à quel point le piège s'est refermé sur la droite, et avec cette volonté de faire une sorte de formation unique, qui était l'UMP, puis ensuite les LR, tout ce que vous voulez, parce qu'en réalité, la tradition gaullienne a été happée par quelque chose qui est une vraie droite, qui est centro-libérale, etc., etc., et qui a laissé tomber la droite classique, qui a laissé tomber le social et l'État. Et ce que je voulais juste dire, c'est que c'est un phénomène qui existait de manière moins forte, mais en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où il y avait une aile, une sorte d'aile droite. Or, Reagan aux États-Unis et Thatcher en Grande-Bretagne ont absorbé, parce qu'ils étaient assez forts, ils ont absorbé en défendant des thèmes très nationaux, très forts, ils ont absorbé ces bordures d'extrême droite, alors qu'en réalité, la droite française, par une naïveté ou même une certaine dose de sottise ou de refus de considérer le réel, s'est laissé progressivement pirater, vampiriser.
Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas réussi, lui également, en 2007, à absorber ces bordures ?
Un peu, il y a réussi un peu, mais il est vite revenu aux vieilles. Vous savez, on disait qu'à la fin de son mandat, son obsession, c'était de nommer au gouvernement Jacques Lang. Donc, il s'est laissé prendre à une sorte de conformisme, alors qu'effectivement, il avait, je pense, assez bien analysé les choses.
Aurore Malval, dans le contexte actuel, et notamment avec ces élections municipales qui approchent au mois de mars prochain, est-ce que cette théorie de l'union de la droite pourrait devenir quelque chose d'effectif ? Au fond, est-ce qu'on pourrait avoir dans plusieurs communes de France des listes qui iraient de LR à Reconquête ? C'est envisageable aujourd'hui ?
Ah ben on en a effectivement qui sont en train de se monter. Hein,
les hommes de Bourg-en-Bresse notamment.
Tout à fait. Il y en aura aussi dans les Alpes-Maritimes. Bourg-en-Bresse, c'est intéressant parce que on a aujourd'hui un cas de figure où on a un tête de liste qui est un candidat zémouriste et qui va avoir sur sa liste au moins, à l'heure où je vous parle, au moins trois candidats qui ont l'étiquette LR et un autre qui est membre du parti de David Lisnard, Nouvelle Énergie. Donc, effectivement, c'est une situation qui embarrasse un petit peu les Républicains, l'état-major des Républicains. Bruno Retailleau a été interrogé là-dessus la semaine dernière. Il a dit que non, cette liste ne serait pas soutenue par le parti, qu'il y en aurait une deuxième. Toujours est-il qu'il y avait une commission d'investiture hier et cette question n'a pas été tranchée. Elle aurait dû être à l'ordre du jour, elle n'y a pas été. Donc on voit bien qu'il y a cette petite tension chez LR. Ça va se produire dans d'autres villes parce que Bourg-en-Bresse, le maire PS est quand même très bien implanté. Je doute vraiment que cette liste d'union arrive à ravir la mairie. Par contre, dans d'autres villes, notamment dans les Alpes-Maritimes, dans des territoire très à droite, eh bien, pour que LR puisse conserver des mairies, je pense qu'ils vont se dire qu'ils sont obligés d'en passer par la case Union des droites.
Comment comprendre, Arnaud Tessier, la position complexe, là aussi, de Bruno Retailleau? Un autre exemple, hein, il dit, dans le même temps, le mois dernier, lors de la législative partielle dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban, au second tour, lorsque un candidat soutenu par le Parti Socialiste et face à lui un candidat UDR, le parti d'Éric Ciotti, l'Union des droites pour la République, il disait « aucune voix pour la gauche ». Et il a soutenu le candidat soutenu par le Rassemblement National. Alors comment comprendre ce double message en apparence ?
Je crois que Bruno Retailleau a encore l'espoir de rattraper un peu une situation très dégradée. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se résigner à l'idée que le RN va occuper totalement l'espace qui était occupé par la droite. Et c'est pourquoi il a développé un discours qui était beaucoup plus nuancé et subtil que bien celui de bien de ses camarades de parti. Et en particulier, Bruno Retailleau insiste beaucoup sur l'importance de l'État, sur le rôle de l'État. Il n'a pas encore un discours social très prononcé, mais ça viendra peut-être. Donc on sent bien qu'il analyse, c'est un homme intelligent et qui a beaucoup lu, et je pense qu'il analyse très bien pourquoi on en est arrivé là, mais qu'en même temps, il ne se résigne pas, et c'est normal quand on fait de la politique et quand on se bat, il ne se résigne pas à ce qui est peut-être malheureusement inévitable, c'est que la droite classique disparaisse complètement et que son espace soit occupé, et pas une sorte de loi de la pesanteur de la politique. Donc il a...
Pardonnez-moi, qu'est-ce que ça veut dire cela, dans le fond? Ça veut dire qu'il est contre l'Union des droites, mais que lorsque l'option se présente de devoir choisir entre un candidat de gauche et un candidat d'extrême droite ou soutenu par l'extrême droite, il vaut mieux soutenir ce dernier?
Peut-être dans certains cas, je ne sais pas ce qu'il fera effectivement, mais enfin, il peut reproduire ce qui se fait à gauche de la même manière. Mm-hmm. Je crois qu'il ne veut pas être piégé surtout, et je crois qu'il espère encore que l'élection présidentielle, qui n'obéit pas à des logiques purement partisanes, permettra de rattraper une situation qui est très dégradée.
Laurent Malval, sur la position de Bruno Retailleau.
Oui, moi je pense qu'il y a une tension un petit peu chez LR. Déjà, il y a toujours cette espèce de mythe Sarkozy, où LR espère quand même, par impossible, réussir à nouveau l'OPA que Nicolas Sarkozy avait réussi à faire sur les voies des électeurs du Rassemblement, enfin du Front National.
Ce qu'on évoquait
à l'époque,
sur 2007.
Du Rassemblement, exactement. Donc ça, c'est un mythe persistant quand même chez LR. Ils ne se résolvent pas, même si aujourd'hui ils sont à 5% et le RN à 30% parfois. Eh bien, quand même, c'est quelque chose qui reste. Ensuite, par rapport à la question de comment Bruno Retailleau envisage un petit peu ce front antique, moi je pense que c'est devenu assez clair. Chez les LR, on a d'abord dit le front républicain s'est déplacé. On a changé de paradigme. C'est-à-dire que le fait de dire on voterait pour la gauche face à un candidat RN, ça n'existe plus et c'est même le contraire. Laurent Wauquiez le dit d'ailleurs de façon encore plus franche que Bruno Retailleau en disant oui, je fais un barrage républicain contre LFI. Et en fait, de LFI, on est passé par une sorte de truchement de langage à la gauche mélenchonisée, entre guillemets, et cette gauche mélenchonisée comprend le PS et c'est devenu la gauche tout court. On fait barrage à la gauche. Pourquoi LR a rejoint le gouvernement, même des macronistes, pour faire barrage à la gauche? Donc ça me semble quand même très clair aujourd'hui. C'est plus ce barrage-là qui prime, et la ligne de LR, elle est quand même là-dessus. Donc ça veut dire aucun électeur, en fait, des Républicains ne fera barrage au Rassemblement National.
Mais si Union des droites, il devait y avoir, Arnaud Tessier, il faudrait une primaire. Quelle forme cela prendrait-il dans le fond pour que cette union puisse surgir politiquement?
L'hypothèse d'une primaire qui couvrirait l'ensemble de l'éventail de la droite jusqu'au bord les plus extrêmes me paraît peu vraisemblable.
Ça vous paraît plus vraisemblable que des tractations entre les partis? Ils se mettraient d'accord sur un candidat commun?
Alors, entre les partis, candidat commun, ce qui est certain, c'est que s'il y a une multiplicité de candidats de la droite classique au premier tour de l'élection présidentielle, les chances de gagner l'Élysée pour les LR, par exemple, sont nulles. Je pense que le vrai sujet, c'est la capacité ou non de la droite classique, pour reprendre l'expression de Pierre Mauroy, qu'il avait utilisé, je le vois. La seule chance de la droite classique, c'est d'arriver suffisamment unie pour avoir l'espoir d'être au second tour, peut-être face au candidat RN. Et là, la mécanique de l'élection présidentielle fait que la droite classique peut gagner face à un candidat du RN. Je pense que c'est leur seule chance, c'est ça. Mais malheureusement, comme toujours, et on l'a observé dans la vie politique depuis 20 ans, il y a un certain nombre de personnalités à droite qui pensent moins à l'intérêt collectif de leur formation, de leurs idées, de leur mouvement, voire même de la France, et qui préfère presque perdre une élection que de voir tel ou tel gagner.
Ça, en l'occurrence, ça appartient à l'ensemble des tendances. Hein.
Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'était quand même un peu plus, il y avait un peu plus de discipline à droite autrefois.
Aurore Malval, sur ce point, sur cette possibilité ou non d'une primaire pour permettre à une union de la droite, des droites, de surgir.
Moi, je pense que, comme je disais en début d'émission, pour Laurent Wauquiez, il y a clairement quelque chose. Il met un caillou dans le jardin de Bruno Retailleau qui ne veut pas de cette primaire et il se dit bon bah comme ça je l'enquiquine un petit peu et je pense pas qu'il ait un vrai désir.
Il faut expliciter ce que vous dites là. Il a notamment commencé à discuter avec
tout à fait. Il a rencontré Eric Zemmour. Il a aussi rencontré d'ailleurs. Enfin il y a des
négociations. Édouard Philippe également.
Édouard Philippe de façon je dirais moins polémique, mais ces discussions qui ont cours, elles ravissent pas tout le monde chez les Républicains. Florence Portelli, par exemple, qui pourtant a soutenu Laurent Wauquiez lors de l'élection interne, n'y est absolument pas favorable. Pour David Lisnard, je dirais que lui, il voit peut-être dans cette primaire élargie, il se voit peut-être comme le barycentre, justement, de cette droite qui irait jusqu'à Sarah Knafo, notamment sur l'aspect libéralisme, un petit peu cette tendance de la droite française à lorgner vers Javier Milei et les libertariens. C'est quelque chose qui, en tout cas, a eu un peu le vent en poupe. Alors, est-ce que ça dépassera les plateformes des réseaux sociaux comme X? Ça reste à voir. Mais en tout cas, peut-être que lui se dit qu'il pourrait émerger, effectivement, dans une primaire, n'ayant pas aujourd'hui derrière lui l'assise de l'appareil des Républicains. Mais vraiment, je ne vois pas dans quel monde on aurait Sarah Knafo qui, si elle perd la primaire, ferait campagne pour Gérald Darmanin s'il venait à la gagner. Enfin, une primaire, c'est quand même pour que les perdants soutiennent le gagnant. Aujourd'hui, je vois pas comment ça peut exister.
On a parlé de stratégie politique, il faut quand même à un moment donné qu'on parle du fond et des idées qui traversent ces différents courants de la droite française. On a peut-être aussi du mal, pour que cette union des droites surgisse, du mal à voir ce qui pourrait unir sur le plan des idées Bruno Retailleau et Jordan Bardella, Laurent Wauquiez et Jean-Philippe Tanguy. On comprend à peu près ce qui peut les unir sur les sujets dits sociétaux, migratoires, régaliens, mais sur le plan strictement économique et sociale, par exemple, les différences, Arnaud Tessier, sont majeures entre ces quatre hommes.
Ça dépend en réalité, parce que encore une fois, au RN, je
entre
sens
Bardella et Retailleau.
Oui, je sens percer un discours qui est destiné à séduire le MEDEF, parce qu'on voit très bien que Jordan Bardella, il a des discours assez construits, puis tout d'un coup, il passe, il fait une sorte de tirade sur les excès de normes qui écrasent les chefs d'entreprise. On sent qu'il essaie de composer un petit peu
qu'on trouve à peu près partout.
Voilà, mais en même temps, je pense quand même que ce qui manque à la droite française, qu'elle a perdu en route, c'est un discours sur la nation, ça, à la limite, sur la nation, un discours un petit peu critique sur l'Europe, sans être anti-européen, un discours un peu gaullien, quoi. Je pense qu'elle l'a pas totalement perdu. Par contre, elle a perdu un discours sur l'État, sur la nécessité d'avoir un État relativement fort. Par les temps que nous vivons, ça paraît quand même assez logique. Et un discours social qui ne consiste pas simplement à dire qu'on va sabrer dans le système de protection sociale français, etc. Et là, je dois dire que ça dépendra beaucoup de qui prendra la ligne directrice au RN. Si c'est une ligne Marine Le Pen, mais je vois mal comment, eh bien là, je pense que la droite classique, si elle s'aligne sur un discours Lisnard, elle sera complètement laminée. Si Jordan Bardella, la ligne Bardella ou une ligne un peu libérale ou en libéral, affichée libérale, l'emporte, et négligeant trop l'aspect social et l'aspect défense de l'État, je pense que là, les choses sont plus voilà, ça passera différemment.
Bon, mais il me semble bien que vous démontrez par là qu'il y a des lignes quand même claires et qui s'opposent au sein même des partis. Aurore Malval, est-ce que vous-même voyez se dessiner un possible programme commun qui unirait ces différents courants de la droite française?
Un programme commun, c'est difficile, mais en même temps, deux choses. On a ouvert cette émission en parlant de ce qui se passait à l'Union européenne, le Conseil justement au niveau européen. C'est intéressant parce que cette tentation aussi...
La directive Omnibus qui a été votée par une partie de la droite et de l'extrême droite européenne en commun.
Juste avant, il y avait la motion de censure contre Ursula von der Leyen qui a été votée par pas tout le groupe des DLR français, mais je crois 4 sur 6 de mémoire, donc qui a voté avec l'extrême droite. droite la motion de censure contre Ursula von der Leyen. Et c'est vrai que du Parlement européen part un peu cette volonté d'union des droites, aussi mue par les exemples justement de nos voisins européens comme Giorgia Meloni en Italie, qui est souvent brandie en exemple par cette frange-là. Mais c'est vrai qu'on sent bien la tension à l'intérieur du Rassemblement national entre, je dirais, ceux qui se réclament un petit peu du gaullisme et du souverainisme, et puis les identitaires libéraux. Et en fait, aujourd'hui, ça n'a pas empêché quand même le RN de faire alliance avec l'UDR d'Éric Ciotti, qui brandit la tronçonneuse aussi souvent que faire se peut, en parlant de l'excès de normes, de l'excès de fonctionnaires, alors que le RN est resté encore aujourd'hui, enfin la ligne, je dirais, officielle, c'est quand même toujours celle de Marine Le Pen. Même si, effectivement, on voit bien que Jordan Bardella, qu'est-ce qu'il veut, Jordan Bardella? J'ai l'impression que son rêve, c'est surtout d'être un mec de droite classique du RPR. Alors, avec aujourd'hui la composante, effectivement, très, très identitaire, anti-immigration, mais que porte LR quand on voit ce que dit Bruno Retailleau? Il n'est pas du tout... Enfin, j'ai pas le sentiment que l'extrême droite est finalement plus d'extrême droite que Bruno Retailleau. Il y a quand même eu une droitisation du discours de la droite classique sur un certain nombre d'aspects qui rend aujourd'hui possible, en tout cas sur le régalien, je ne vois pas véritablement ce qui les différencie. Et donc certains parlent d'ailleurs d'une plateforme commune, ce ne serait pas vraiment un programme commun, mais ce serait une plateforme commune sur un certain nombre de mesures qui toucheraient l'immigration, la police, etc. Et même d'ailleurs la question des PME, où ils sont globalement d'accord aussi.
Vous sembliez plus ou moins d'accord, Arnaud Tessier?
Oui, parce que c'est la question de l'immigration. On voit bien que dans les autres pays européens, la gauche elle-même s'en empare. Donc je pense que...
Une partie de la gauche.
Oui, mais enfin, il y a de plus en plus de gouvernements européens qui ne sont pas forcément des gouvernements d'extrême droite, même loin de là, parce qu'il y a un sujet, de toute façon, il y a un sujet, c'est un fait que personne ne peut nier. Donc tout dépend de la façon dont on le traite. Mais justement, c'est un sujet qui, pour être traité, nécessite un État fort, capable d'intégrer, qui nécessite des politiques sociales, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain priver de prestations sociales tous les étrangers qui viennent en France. Donc il y a un principe de réalisme qui fait que le système français, on ne peut pas le renverser. Le modèle Milei, à mon avis, c'est absurde et suicidaire pour la droite si elle persiste dans cette ligne-là.
On a parlé d'à peu près tout le monde dans cette affaire, sauf peut-être des électeurs eux-mêmes. Je voudrais vous faire commenter une étude menée par Cluster 17 pour votre journal, Aurore Malval, Marianne, et je cite un extrait d'un article publié dans votre hebdomadaire. En chiffres, 83% des électeurs ayant opté pour la liste de Jordan Bardella aux Européennes 2024 ont un avis favorable sur l'union des droites, dont la moitié ont même un avis très favorable. Les avis positifs montent à 88% parmi les zémouristes. L'adhésion est pourtant loin d'être la même au sein de l'électorat Les Républicains des Européennes 2024, qui ne compte que 55% des sondés souhaitant ce rapprochement. Fin de citation. Aurore Malval, est-ce que cela signifie que, dans le fond, celles et ceux qui freineraient le plus pour une union des droites, ce seraient les électeurs traditionnels, classiques, des Républicains?
En fait, je pense qu'il y a, quand on voit 55%, ça correspond, c'est un petit peu plus, mais que la plupart des études, je dirais, de ces dernières années chez les LR, où avant, il y avait globalement un tiers qui souhaitait cette union des droites, un tiers qui ne la souhaitait surtout pas et un tiers qui ne se prononçait pas. Aujourd'hui, on a augmenté un petit peu, on passe à 55%, mais effectivement, il y a plusieurs composantes dans l'électorat et tout à l'heure, en faisant justement cette généalogie de ce qu'étaient les LR aujourd'hui, avec notamment l'intégration de cette composante européiste qui avant était représentée à l'UDF, eh bien, on a, je dirais, une composante un peu élitaire, modérée, libérale, qui croit en l'Europe et qui trouve finalement que le Rassemblement National, c'est pas sérieux et que c'est un parti démagogique, populiste et anti-Europe et qui, je pense, que se reflète dans ces 45% qui ne souhaitent pas d'union des droites.
Et ça, c'est la ligne classique, celles et ceux qui soutiennent notamment Jean-François Copé ou Xavier Bertrand?
Par exemple, mais... On peut la retrouver effectivement, elle peut même se retrouver chez des électeurs qui soutiennent aujourd'hui Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Mais effectivement, c'est des composantes, en tout cas du vote LR, bon, qui n'est plus si nombreux, hein, notamment là on s'est basé sur les électorats des élections européennes, donc ils n'étaient pas très nombreux à avoir voté, à avoir opté pour la liste des Républicains. Mais effectivement, cet électorat-là existe, ça ne veut pas dire non plus qu'il voterait pour la gauche contre un candidat, encore une fois, du Rassemblement National.
Arnaud Tessier, du point de vue là encore de la sociologie électorale, si l'on observe ce qu'attendent les électeurs, est-ce qu'une union des droites, du point de vue donc de la demande politique, vous paraît crédible?
Oui, de toute façon, le problème, encore une fois, à mon avis, il est un peu dépassé, puisqu'il y a déjà une très large partie de ce qu'était l'électorat de la droite classique qui est passé au Rassemblement National. Donc, encore une fois, le thème de l'union des droites va perdre beaucoup de son intérêt, puisqu'on risque d'assister tout simplement au fait, encore une fois, que le RN...
Vous voulez dire que ça va devenir une réalité?
C'est ce qui se dessine. Enfin, sauf... Il y a la ligne Retailleau, que je trouve... c'est la seule ligne de survie, à mon avis, qui est intelligente parce qu'elle fait la bonne analyse historique, mais la voie est très étroite. La voie est très très étroite. Et puis, il y a tout le fait que, quand même, cette droite classique a quand même soutenu, sans participer, puis en participant, le système Macron dont les gens ne veulent plus. Et ça, elle traîne ça comme un boulet. Donc, je pense que si j'étais un des dirigeants de la droite, ce que je ne suis pas, je commencerais déjà à réfléchir comment se reconstruire. C'est-à-dire, je reviendrai aux fondamentaux. Pourquoi on est arrivé en 30 ans à cette situation? Parce que le RPR, il y a 30 ans, c'était quelque chose. Encore une fois, Séguin disait, il parlait de la dégaullisation du RPR. Peut-être qu'il serait temps de regauliser un petit peu, parce que la dégaullisation, ça a été l'amoindrissement continu, et puis on arrive à 5% présidentiel ou même pas.
Aurore Malval, quid des arguments moraux parmi l'électorat, notamment des Républicains? Est-ce que ce sont des arguments qui ont encore un effet? Est-ce qu'ils percent auprès de cet électorat, justement, pour tenter de les retenir, de les empêcher de passer, dépasser même ce cordon sanitaire?
Alors, je pense que ces arguments... Alors, souvent, les élus des Républicains, lorsqu'ils défendent le fait qu'ils ne veulent pas d'alliance avec le Rassemblement National, citent effectivement, disent que parlent de l'histoire du Rassemblement National et du Front National, l'histoire collaborationniste, enfin des origines du Front National. Ils parlent aussi des positionnements un peu ambigus envers la Russie. Et puis, enfin, le troisième, c'est souvent le côté marxiste et socialiste de leur programme économique. Mais ces deux premiers arguments moraux, c'est intéressant.
Vous avez mis
parce
des guillemets,
fait...
je le dis parce que les gens ne le voient pas nécessairement.
Pardon, oui, c'est effectivement une stratégie un peu politique. Je vois pas ce qu'il y a vraiment de marxiste dans le programme du Rassemblement National. Mais effectivement, et alors les deux premiers arguments, c'est intéressant parce que... Ça, je ne pense pas qu'il porte, mais par contre, il porte chez une certaine génération qui en est déjà convaincue. Il y a des gens chez les LR et chez leurs électeurs qui, je pense, ne franchiront jamais ce Rubicon, ce
Quelle
cordon sanitaire. La génération je dirais plus de 50 ans. Principalement, c'est-à-dire que les plus jeunes n'ont plus du tout cette pudeur entre guillemets à franchir ce cordon sanitaire et ne voient aucun problème à s'allier avec justement l'extrême droite. Et par contre, chez les plus anciens, d'ailleurs, Bruno Retailleau fait partie de cette génération. Ça fait peut-être aussi partie des raisons pour lesquelles il tient cette ligne justement de pas d'alliance, même s'il ne refuse pas en tout cas le barrage face à la gauche, mais il ne souhaite pas se fondre dans le Rassemblement National. C'est le cas aussi d'autres personnalités des Républicains.
Merci à vous deux, et pour ceux que la droite intéressait, ils ont été servis en vous écoutant, en écoutant vos analyses. Aurore Malval, journaliste, grand reporter au service politique de Marianne. Arnaud Tessier, historien spécialiste de la 5e République et du gaullisme. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la gauche, je renvoie à une émission que nous avons donnée ici même dans Questions du Soir le 10 novembre dernier. On l'avait intitulé « La gauche française peut-elle s'inspirer de Zoran Mamdani ?» Merci à celles et ceux qui ont préparé également cette émission. Louise Morfoise, Diane de Vancey, Juliette Moellic, Antoine Héral. À suivre après le journal, on va s'intéresser aux sources de la démocratie, au prisme de l'histoire et notamment à cette période 1789, les révolutionnaires étaient-ils vraiment des démocrates ?